Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église. Il y a 2 mois, vous vous en souvenez peut-être, nous avions inauguré une série d'émissions dédiées au Père de l'Église. Il s'agissait plutôt d'une vue générale de la longue liste de ces personnages très importants dans l'histoire du christianisme. À compter du présent numéro, nous allons de temps à autre vous proposer des émissions spécifiquement consacrées à l'un d'entre eux. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Saint Irénée de Lyon. Et comme lors du numéro qui lançait cette série, j'ai invité le père Édouard d'Ivry, frère dominicain et docteur en théologie, pour aller à la découverte de Saint Irénée, de sa vie, de son œuvre et de son enseignement. Bienvenue frère Édouard et merci d'être une fois de plus au rendez-vous de Vivante Église.
Bonjour Éric, bonjour à tous.
Pourquoi nous intéresser encore dans cette émission à un père de l'Église? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui?
Les pères, disait Saint Jean-Paul II dans une lettre apostolique à l'occasion d'un anniversaire de Saint Basile en janvier 1980, les pères sont pour ainsi dire une structure stable de l'Église et y accomplissent à travers les siècles une fonction ininterrompue, c'est-à-dire donc encore pour aujourd'hui. C'est ainsi que toute annonce de l'Évangile et tout magistère ensuite, pour pouvoir être authentique, doivent être comparés à leur annonce et à leur magistère, ceux des pères, donc poursuit Jean-Paul II. Tout charisme et tout ministère doivent puiser à la source vive de leur paternité, toute pierre nouvelle qui s'ajoute à l'édifice, qui s'accroît et s'étend chaque jour, doit se situer dans la structure qu'ils ont posée et se souder à elle. Vous comprenez donc l'importance d'étudier les pères, et puisque nous commençons par l'un des grands, un des premiers, Saint Irénée a toute sa place.
Voilà, il fallait le rappeler et c'est bien pour ça que nous faisons cette série d'émissions. Irénée de Lyon, donc, nous allons commencer en le resituant dans le temps et l'espace. Où est-il né? À quel endroit? De quels éléments biographiques dispose-t-on le concernant?
Alors nous avons heureusement par Eusèbe de Césarée, qui est le premier historien de l'histoire de l'Église, quelques éléments. Il serait né à Smyrne et il a connu Saint Polycarpe, il a connu donc un des tout premiers évêques de l'histoire de l'Église. L'évêque, c'est l'épiscope, c'est-à-dire celui qui est chargé de surveiller, de maintenir la foi vive, de la garder en quelque sorte. C'est un gardien nommé dans la suite des apôtres. Et Polycarpe, lui, est à la suite déjà de Saint Jean. Donc, il a entendu Saint Jean, l'un des 12, et Polycarpe a transmis à Saint Irénée. Donc il y a un lien très très fort et on peut dire que d'une certaine manière, si Polycarpe est un père apostolique, Irénée est un quasi-père apostolique puisqu'il a entendu un témoin de Saint Jean.
En tout cas, il est dans la filiation immédiate
des pères apostoliques, exactement. Et ce rôle donc est déterminant pour comprendre sa détermination à transmettre la tradition. C'est un homme qui va concevoir beaucoup mieux que encore tout ce que l'on a dans les écrits apostoliques la définition de la tradition. Il va être envoyé aux extrémités de la partie évangélisée du monde puisqu'il est envoyé à Lyon et on sait qu'il y a eu une persécution à Lyon à la suite des persécutions de Néron, de Domitien, de Trajan. Il y a eu la persécution de Marc Aurèle au cours de laquelle Saint Potin, l'évêque de Lyon, est mort. Et Irénée se retrouve donc dans le collège des prêtres. Et il est le successeur direct de Saint Irénée. On estime donc qu'à partir de 180 et quelques, les dates sont un peu floues.
Il est à Lyon.
Voilà, il est à Lyon, 177, 180. Et il prend la place de Saint Potin à la tête de l'église des chrétiens de Lyon.
On va revenir un petit peu à Smyrne tout de même. Donc, il est aux côtés de Polycarpe, qui est en quelque sorte son maître. Mais qui sont les autres personnages qu'il fréquente? Dans quel mouvement se retrouve-t-il immergé? Parce que là, il va falloir qu'on parle déjà de la gnose, ou plutôt du gnosticisme.
Et exactement. Il a connu à Smyrne l'église d'Orient, d'Asie mineure, et peut-être que, sans doute, à Lyon, il est indemne de ces courants parce que c'est une toute nouvelle évangélisation. Il n'y a pas eu encore probablement de courant qui se sont introduits et qui ont essayé de lancer d'autres, je dirais, interprétations de l'Évangile telles que la tradition la donne. Et Saint-Irénée va donc réfléchir à tous ces courants et il va en quelque sorte les lister. Et pour nous, c'est important parce qu'on ne retrouvera des preuves souvent de ces courants que très longtemps après, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura les découvertes de Nag Hammadi au sud du Caire, le long du Nil. On retrouvera de ces documents donc du gnosticisme. Qu'est-ce que c'est que le gnosticisme? C'est un courant un peu bizarroïde qui place, je dirais, la réflexion en premier pour être sauvé. Mais une réflexion, je dirais, tout azimut qui n'a pas nécessairement l'enracinement biblique tel que Irénée, lui, au contraire, le défend dans la tradition. Et que disent-ils, par exemple? Ils pensent que Dieu est un être transcendant et qu'en dessous de lui, il y a, par exemple, 30 éons qui se divisent par paires, Sophia, qui est une curieuse, qui engendre Akamot, qui engendre Adam. Il y a une espèce de, si vous voulez, de fiction littéraire qui tourne autour de ces grands noms, autour du plérôme d'origine. Il y a l'Ogdoad, qui représente des paires importants d'éons à côté de 22 autres. Et la toute première paire, parmi cette ogdoade que imagine donc ce gnosticisme, c'est le père accompagné de Sugé, le silence. C'est assez étrange, si vous voulez. Mais malheureusement, ce qui est étrange, je dirais, attire les esprits curieux. Et plus c'est gros, plus on le gobe. Vous le savez, dans les médias, c'est toujours comme ça.
C'est vrai. Il faut aussi peut-être qu'on explique qu'il y a une différence entre gnose et gnosticisme. La gnose, c'est la connaissance, tout simplement.
Alors, la gnose, c'est la connaissance, c'est l'Évangile, et de ce point de vue-là, est une connaissance révélée. Et donc, le mot gnose avait, au début de l'histoire de l'Église, une connotation extrêmement positive. On le voit dans les contemporains de Saint-Irénée qui sont autour de lui, Aristide, Justin, Tatien, Athénagore d'Athènes, Théophile d'Antioche, Méliton de Sardes, l'Épître à Diognète. Tous ces auteurs-là parlent de la connaissance comme étant une bonne chose. Et Jésus lui-même, dans l'Évangile de Saint Jean, dit bien que la vie éternelle, c'est la connaissance du Fils et la connaissance du Père. Donc le mot « gnose » en soi est bon, mais ce qu'en font le gnosticisme est tout à fait une perversion, si vous voulez, de cette connaissance initiale. Et le rôle de ces premiers pères de l'Église avait de consolider, je dirais, les contreforts de cette connaissance pour conserver la tradition. Évidemment, le problème de cette période, c'est que autour d'eux, il y a toujours les persécutions. On en évoquait quelques-unes qui ont conduit à la mort de Potin, le premier évêque de Lyon, mais il y a les persécutions juives qui s'arrêtent en 135-136 avec la mort de Bar Corba, et les premiers écrits chrétiens ne sont pas conservés de la même manière que cela adviendra à partir de la paix de Constantin, à partir de 300 et quelques, où la paix va permettre une conservation des écrits. Donc, ces écrits sont un peu épars, et on peut le dire même pour Irénée, même si on a de lui deux beaux éléments, la démonstration apostolique et puis le contrat Hérésès, qui forment deux gros blocs, mais on sait pertinemment par Eusèbe de Césarée qu'on a perdu ses homélies, qu'on a perdu d'autres documents. C'est un peu, si vous voulez, je prends une analogie, c'est comme les pré-socratiques par rapport à Platon. On n'a que des éléments et malheureusement, on risque de vouloir reconstruire les pré-socratiques en disant « ils pensaient comme cela » à partir d'éléments dispares et pas unifiés. Et en fait, il faut être très prudent donc dans l'analyse de ces pères parce qu'on pourrait vite, si vous voulez, donner une interprétation exagérée de certaines phrases sans tenir compte de ce qu'ils ont dit réellement, puisqu'on n'a pas tout ce qu'ils ont dit. Il y a une sorte de risque d'une surinterprétation. Et comme disait saint Augustin, ou du moins dans la ligne de saint Augustin, il parlait parfois même, dit saint Augustin, avec négligence parce qu'aucun ennemi n'était présent. Et de fait, Irénée a beaucoup de chance parce que Il vit à Lyon, il vit en dehors des ennemis. Mani n'est pas encore né. Mani qui va donner le manichéisme, qui va être l'erreur dans laquelle va tomber Saint-Augustin. Et il est préservé de certaines formes de gnosticisme plus virulents qui auront lieu après sa mort. Et d'une certaine manière, il peut aborder les choses avec un certain irénisme, avec un jeu de mots, bien sûr, parce que vous savez bien que la paix, et le nom de Irénée veut dire la paix se construit autour de la vérité, de la justice, de la liberté et de l'amour. Et c'est un fruit. Or, Saint-Augustin a eu à se battre contre les Romains, a eu à se battre contre ce gnosticisme, il a eu à se battre contre ses premières erreurs qui ont conduit quand même à des déviances graves comme le manichéisme qui apparaîtra longtemps après sa mort.
Alors, concernant Irénée de Lyon, avant d'arriver à Lyon, en tout cas de s'y établir, il quitte Smyrne, où il est né en 130, en Asie mineure, donc vers le début des années 60, pour se rendre en Occident, mais il va passer à Rome notamment. Ça, c'est important, je pense, ces quelques incursions à Rome.
Oui, on sent que Saint Irénée a une grande dévotion vis-à-vis du siège de Rome, parce qu'il y a une primauté romaine. C'est l'église la plus ancienne, et celle vis-à-vis de laquelle il y a la plus grande révérence à donner. Pourquoi ? Parce que Pierre et Paul y ont donné leur témoignage. Et ce sont les colonnes de l'Église, à la fois parce que Jésus a confié à Pierre la barque de l'Église et parce que Paul a été l'apôtre des nations. Donc de ce double point de vue, Pierre et Paul sont une référence et les successeurs de Pierre, l'un, Clément, Clément, etc., qui prennent la place de Pierre, eh bien, il faut les écouter. Et comme dit Saint Irénée, il faut que toute église se mette en accord avec cette première église. Et c'est pour cela qu'il va à Rome, sous le pape Éleuthère, sous le pape Victor, pour essayer de régler eh bien, des points de vue qui, bien sûr, pouvaient être une occasion de tiraillement, en particulier la date de Pâques. La date de Pâques, il y avait deux courants, où c'était un courant qui marquait, si vous voulez, la date fixe historique, quand Jésus était mort et ressuscité, en l'an environ 33 de notre ère, et soit on suivait le calendrier traditionnel de juifs, c'est-à-dire la date de Pâques étant fixée le 14 du mois de Nissan, et cela conduisait donc à deux façons de célébrer la Pâque, soit un dimanche fixe de Pâques, comme il était défini, soit au contraire en suivant le calendrier juif dans lequel la Pâque est variable. Il faudra attendre le concile de Nicée pour que les choses se fixent, mais en attendant, ce que défend Saint Irénée, c'est qu'il est légitime qu'il y ait plusieurs traditions. Car, ajoute-t-il, et nous en avons la preuve dans le grand Eusèbe de Césarée, l'historien, il dit que la multiplicité des coutumes manifeste l'unité de la foi. C'est très important de comprendre cela. Et de nos jours, le synode, par exemple, de 1985, 20 ans après le Concile Vatican II, a rappelé qu'il y a une pluriformité légitime des traditions. Il ne faut pas uniformiser d'une manière drastique, d'une manière telle qu'on pouvait être tenté de le faire pour marquer l'unité. C'était la tentation d'Éleuthère, de Victor, des successeurs de Pierre, qui voulaient un petit peu rigidifier en disant « tout le monde aura la date de Pâques à ce moment-là ». Eh bien, Irénée a dit non. Les églises d'Asie utilisent le calendrier donc solaire lunaire des Juifs, le 14 Nissan. Et pourquoi est-ce qu'on les empêcherait ? Puisqu'ils manifestent la même foi, et cette foi, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Donc, il a mis en place ce qu'on appelle la pluriformité légitime des rites et des traditions. C'est très important pour nous, surtout quand il y a des tensions, comme de nos jours, entre la forme extraordinaire, la forme ordinaire. Et on peut dire qu'il est déjà un précurseur, je dirais, de la paix dans l'Église, de la pluriformité légitime. Et il faut le suivre, bien sûr, Irénée. C'est pour cela, je pense, qu'il est docteur de l'Église.
Quelle va être sa vie et son action à Lyon ? On ne sait pas trop pourquoi il s'y rend. ces raisons restent assez obscures. D'ailleurs,
l'évangélisation, sans doute.
Dans ses écrits, il ne mentionne jamais le nom de Lyon. Il dit qu'il est chez les Celtes.
Oui, voilà, exactement.
C'est qu'il voit comme des barbares. Hein.
Alors, c'est sûr que le pays des Celtes n'est pas désigné comme la Gaule. Et c'est vrai que c'est assez amusant de voir, par exemple, dans son explication de la tradition, cette formule que je vous lis dans le Contra Hereses, l'Église, bien que disséminée dans le monde entier, préserve avec soin la foi des apôtres comme si elle n'habitait qu'une seule maison. De la même façon, elle croit dans ses vérités comme si elle n'avait qu'une seule âme et un même cœur. Elle proclame, enseigne et transmet en plein accord ses vérités comme si elle n'avait qu'une seule bouche. Les langues du monde sont différentes, mais la force de la tradition est unique et la même. Les églises fondées dans les Germanies n'ont pas reçu ni ne transmettent de foi différente, pas plus que celles fondées dans les Espagnes ou encore parmi les Celtes. Et voilà, nous nous trouvons donc à Lyon parmi les Celtes, ou dans les régions orientales, ou en Égypte, ou en Libye, ou dans le centre du monde. Et le pape Benoît XVI, qui parlait de Saint-Irénée toujours avec beaucoup d'amour, dit « On voit déjà à cette époque, nous sommes en l'an 200, l'universalité de l'Église, sa catholicité et la force unificatrice de la vérité qui unit ces réalités si différentes de la Germanie à l'Espagne, à l'Italie, à l'Égypte, à la Libye, dans la vérité commune qui nous a été révélée par le Christ. » Beau commentaire.
Il va être accrédité comme presbytre de la communauté chrétienne. À Lyon, il faut expliquer ce que c'est un presbytre.
Donc un presbytre, c'est l'ancêtre du prêtre, hein, c'est l'ancien. À l'époque, probablement, il y avait une communauté d'anciens qui dirigeait l'Église, et l'un d'eux était le protos, le premier, et il était élu très probablement par cette communauté de presbytres pour régir, pour donner les orientations. Et ça n'était pas une place facile parce que les Romains, évidemment, visaient en premier la tête de ces communautés nouvelles et les conduisaient aux lions, aux bêtes féroces dans les cirques pour les tuer. C'est ainsi que Potin a disparu et sous la dent des bêtes. Hein. Et tant d'autres, Blandine et tant d'autres saints de la même époque qui ont disparu dans ces persécutions que nous évoquions au début.
Et Eusèbe indique que c'est à peu près vers 180 qu'Irénée reçoit le titre, c'est un titre épiscope,
oui, épiscope.
Donc évêque,
oui,
on pourrait dire.
Voilà, le surveillant, ouais, comme je disais,
surveillant, évêque, le surveillant, de la communauté chrétienne de Lyon en succession de Potin. Donc en quelque sorte, il est le deuxième évêque.
Il est le deuxième évêque de Lyon, donc pour nous, évidemment, c'est une grande référence et nous sommes très tributaire de ce qu'il nous a laissé, ses écrits qu'il nous a laissés, parce que c'est un enseignement substantiel contre les hérésies et donnant aussi un petit catéchisme dans sa démonstration de la prédication apostolique.
Ses premiers écrits, bon, c'est à peu près à cette période aussi, et notamment on va en parler en seconde partie d'émission, la réfutation de la prétendue gnose au nom menteur, ce serait aux alentours de 185 qu'il l'aurait écrite, et c'est son œuvre maîtresse, il y en a d'autres. Il va mourir vers 200 à peu près.
202, 203, donc les traditions sont un peu au-delà de la date estimée de sa mort, apparaissent plutôt vers le 5e siècle, mais elle est unanime à dire qu'il a été martyr. C'est pour cela qu'on est toujours en rouge quand on célèbre Saint-Irénée, même si on n'a pas pu garder de preuves tangibles de ce martyr. Il n'y a pas de preuves extérieures à travers les écrits de Romains, les interrogatoires, comme on a dans d'autres cas de martyrs. Mais c'est une tradition, je dirais, qui s'est préservée à Lyon depuis la haute antiquité chrétienne. Et il est fort probable qu'effectivement, Irénée ait suivi les traces de Potin, un peu comme les évêques de Rome. Sur les 25 premiers, je crois qu'il y en a 23 ou 24 qui sont morts martyrs. Donc c'est considérable. Il y a un don du sang. Il ne faut jamais oublier que l'Église est fondée dans le sang, à la différence des autres grandes religions qui ont été par une expansion violente. L'Église a connu la configuration au Christ mort et crucifié. C'est ça qui est important de comprendre.
C'est Jérôme de Stridon qui, vers 410, attribue le titre de martyr à Irénée. Et Grégoire de Tours, un peu plus tard, hein, on est au 6e siècle, affirme qu'Irénée serait enterré sous l'autel de la crypte de la basilique lyonnaise Saint-Jean.
Exactement. Alors, il faudrait faire des...
Qui aujourd'hui est l'église Saint-Irénée, d'ailleurs.
L'église Saint-Irénée, il faudrait faire des fouilles supplémentaires. On ne peut pas évidemment abîmer un bâtiment, on risque de l'ébranler en faisant des fouilles graves. Et vous savez combien ça a pu être dangereux, comme pas loin de chez nous, à Montauban, on a essayé de faire un parking sous une cathédrale, et la cathédrale est ébranlée. Donc il faut faire très attention quand on fait des fouilles. Alors peut-être qu'il faut attendre que la science progresse, mais peut-être qu'un jour, pourquoi pas, on retrouvera les reliques de notre cher Saint-Irénée de Lyon, l'homme pacifique par excellence, l'homme de la paix, l'homme de la tradition.
Voilà pour la vie d'Irénée, en tout cas pour ce qu'on pouvait en dire à partir des éléments biographiques dont nous disposons. Nous allons parler de son œuvre et de son enseignement dans quelques minutes, mais nous allons avant cela faire une pause en musique. C'est le temps de l'Avent qui commence ce dimanche 1er décembre. On va donc écouter un extrait de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. C'est une version du Concert des Nations dirigée par Jordi Savall.
Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne avec le père Édouard d'Ivry, frère dominicain à Toulouse, docteur en théologie, et nous allons poursuivre cette émission en nous intéressant maintenant à l'œuvre d'Irénée de Lyon, à celle qui est arrivée jusqu'à nous. Son œuvre la plus connue est donc Réfutation de la prétendue gnose aux non-menteurs, qu'on appelle plus simplement Contre les hérésies. Quel en est le sujet, frère Édouard ? Bon, on a déjà rappelé ce qu'était la gnose. Maintenant, c'est contre les hérésies. Hein.
Alors, c'est contre les hérésies, mais de fait, à l'époque, les hérésies, c'était essentiellement le gnosticisme. Et donc, il en fait l'évaluation et il montre à chaque fois l'aspect illusion de ces courants et l'aspect fantasmagorique, finalement, de ces courants. Et de fait, qu'ils n'avaient pas vraiment mordu les fidèles. Il faut attendre Mani, qui est né en 218, donc une vingtaine d'années après Irénée, et le courant va être beaucoup plus grave et va entamer une partie de la chrétienté. Là, on est encore dans les balbutiements, je dirais, du gnosticisme, et de fait, il a eu bien raison de les décrire, et surtout d'arriver après, à partir du livre 3, 4 et 5, de revenir au texte après avoir décrit ces gnoses, les mauvaises gnoses, il arrive au texte même de l'Écriture et qu'il cite sans cesse, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, étant un passeur de la tradition. On peut dire qu'avec Irénée apparaît la grande notion de la paradosis, qui est déjà dans les lettres de saint Paul, mais d'une manière qui s'explicite. Et notre pape Benoît XVI aimait beaucoup saint Irénée et il a montré dans une de ses catéchèses, une catéchèse du 28 mars 2007, si quelqu'un voulait s'y référer, que la tradition que décrit saint Irénée est une tradition publique, une tradition apostolique unique et une tradition qu'il dit pneumatique, spirituelle. Pourquoi public ? Parce que justement, la gnose essayait de faire des petits groupes élitistes qui se réunissaient entre eux, qui croyaient connaître par eux-mêmes, de se transmettre secrètement les choses. Il dit non, la tradition est publique, elle est pour tous. Le salut est pour tous, même les gens simples. Et il n'y a pas une espèce d'élitisme. Non, le plus petit d'entre mes frères, disait déjà l'Évangile, c'est celui-là qui doit recevoir cette grande annonce de la bonne nouvelle du salut. Donc cette tradition est publique et sont parvenus jusqu'à nous à travers la succession des évêques. C'est-à-dire, c'est une tradition vivante parce que les évêques sont vivants, ce sont des personnes, c'est une tradition personnelle donc, qui nous rejoint. Deuxièmement, elle est unique, c'est-à-dire l'Église, bien que disséminée, nous le lisions dans la première partie de cette émission, eh bien, transmet une unité. Et Jésus, il va le décrire comme étant un et le même. Un et le même désigne à la fois sa divinité et son humanité. Ce sera repris dans le concile de Chalcédoine. C'est quand même extraordinaire. Une expression de saint Irénée a fait toute la patristique qui est arrivée au concile de Chalcédoine. Un et le même. C'est une expression typique de saint Irénée. Un et le même parce qu'il est toujours cette personne qui est à la fois humaine et divine. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir pu dire déjà des choses si révélateurs du mystère chrétien. Et d'autre part, la tradition est apostolique, c'est-à-dire pneumatique, elle n'est pas figée. Et ça, c'est un point important pour notre temps parce qu'on pourrait s'imaginer, si vous voulez, qu'être traditionnaliste, c'est être dans la tradition. Pas du tout avec saint Irénée. D'ailleurs, il dit cette phrase assez extraordinaire que je vous lis de lui. Cette foi, dit-il dans le troisième livre contre les hérésies, nous l'avons reçue de l'Église et nous la conservons. La foi par l'œuvre de l'Esprit de Dieu comme un dépôt précieux conservé dans un vase de valeur rajeunit toujours et fait rajeunir également le vase qui la contient. C'est la jeunesse permanente. Et il ajoute, là où est l'Église se trouve l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu se trouve l'Église et toute grâce. C'est important de le comprendre. Il faut rester dans l'Église pour recevoir l'Esprit de Dieu. Mais en même temps, on n'est pas bloqué, hein, puisqu'il dit « Là où est l'Esprit de Dieu se trouve l'Église et toute grâce », même au-delà des frontières de l'Église. Vous voyez, il n'est pas du tout, je dirais, un intransigeant, Irénée. Il comprend la valeur du don précieux qui est conservé dans l'Église, mais en même temps, il envoie toute la richesse au-delà des frontières de l'Église. Donc
quand
c'est
vous dites
un précurseur.
Ce n'est pas un intransigeant, vous voulez dire c'est pas un dogmatique.
Alors c'est un homme qui défend le dogme au bon sens du terme, mais il n'est pas doctrinaire.
Oui,
voilà,
doctrinaire.
Il n'est pas doctrinaire.
Idéologue.
Il est idéologue. C'est dans ce sens-là que l'on peut dire. Et le pape Benoît XVI donc dit bien, comme on le voit, saint Irénée ne se limite pas à définir le concept de tradition. Sa tradition, la tradition ininterrompue, n'est pas traditionnalisme, car cette tradition est toujours intérieurement vivifié par l'Esprit Saint qui l'a fait à nouveau vivre, qui l'a fait être interprétée et comprise dans la vitalité de l'Église. Ça, c'est important. On peut dire qu'avec ces grands chapitres, eh bien, nous avons beaucoup reçu de saint Irénée. Alors, évidemment, la façon dont il développe la tradition, il le fait en même temps dans un concept que l'on voit déjà chez saint Paul, dans Éphésiens chapitre 1, où saint Paul parle du fait que Dieu récapitule toutes choses dans le Christ. Et cette notion de récapitulation peut donner l'occasion à des erreurs d'interprétation. Pourquoi ? Parce que cette récapitulation ne se fait pas seulement selon une direction qui serait celle du moins vers le plus, comme une sorte d'agencement progressif. Et de fait, saint Irénée est sensible au fait que malgré le péché, l'homme progresse dans le temps et malgré les chutes, l'agencement des alliances progressives va dans un sens toujours de progrès et je dirais de retrouvailles avec Dieu. Mais en même temps, sa notion de récapitulation est une notion qui permet de comprendre le dessein de Dieu. Et il lit dans ce progrès de l'alpha vers l'oméga, il lit l'oméga à travers l'alpha. Et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre pour nos mentalités. C'est-à-dire qu'il va chercher où est l'origine pour comprendre ce qui est le terme. Et pour nous, c'est compliqué.
L'origine pour comprendre la finalité.
Et pour comprendre même la fin en tant que telle, voyez. Je vous lis un passage. Car le verbe, je suis dans l'Adversus Aereses, livre 3, donc 22-3. Car le verbe artisan de l'univers avait ébauché d'avance en Adam la future économie de l'humanité dont se revêtirait le Fils de Dieu. Dieu ayant établi en premier lieu l'homme psychique afin, de toute évidence, qu'il fût sauvé par l'homme spirituel. Et il fait allusion à 1 Corinthiens 15, 46 qui met en contraste l'homme psychique, c'est-à-dire l'homme encore marqué par le péché, les conséquences du péché, et l'homme spirituel qui est l'avènement que Jésus nous propose en recevant l'Esprit Saint. En effet, puisqu'existait déjà celui qui sauverait, il fallait que ce qui serait sauvé vînt aussi à l'existence afin que ce sauveur ne fût point sans raison d'être. C'est une façon de penser qui nous déconcerte complètement et certains ont cru voir dans ce passage qu'il y aurait comme une préexistence physique au sein même de la Trinité du Verbe incarné. Mais c'est tout à fait faux. Le sujet, c'est le Verbe. D'ailleurs, on le voit bien dans Adversus Aereses, livre 5, 16, 2. Le sujet, c'est toujours le Verbe. Dans les temps antérieurs, en effet, on disait bien que l'homme avait été fait à l'image de Dieu, mais cela n'apparaissait pas car le Verbe était encore invisible. Lui, à l'image de qui l'homme avait été fait. L'homme a été fait à l'image du Verbe et non pas du Verbe incarné. Il faut bien comprendre cela, le Verbe incarné est arrivé après. Et certains auteurs ont cru que, si vous voulez, il y avait comme chez Irénée une sorte de préexistence du Verbe incarné au sein de la Trinité. C'est une énorme confusion. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout saint Irénée, on n'a pas notamment son commentaire du psaume 50, verset 7, « Pécheur, ma mère m'a conçu ». Et certains ont imaginé même que le péché originel serait absent des écrits de saint Irénée. Mais on n'a pas tout, on ne sait pas ce qu'il a dit. Par contre, le péché est très présent dans ses écrits et on en a de nombreux exemples dans ses commentaires où il voit que le péché a malheureusement un rôle, hélas, déterminant dans l'histoire des hommes parce qu'il retarde cette accoutumance de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. L'homme ne peut pas être d'emblée en communion avec Dieu. Il faut du temps, si vous voulez, pour que ces retrouvailles se fassent. Et d'une certaine manière, cela explique pourquoi le Verbe n'apparaît que tardivement chez saint Irénée, parce qu'il faut cette accoutumance, en quelque sorte, de Dieu à l'homme pécheur et de l'homme pécheur à Dieu. Et cela prend du temps, donc il faut des alliances successives. Et dans ces alliances successives, il y a Noé qui arrive en premier, puis Abraham, puis Moïse, puis Jésus. Et je voudrais noter à cette occasion que Adelin Rousseau, celui qui a publié les œuvres intégrales de Saint-Irénée, Adelin Rousseau, a rectifié la première traduction qui était de dire Adam, Noé, Moïse et Jésus. Il manquait évidemment Abraham, ce qui serait quand même incroyable, puisque nous sommes greffés sur Genèse chapitre 15, nous les chrétiens, par rapport à Genèse chapitre 17 qui affirme la circoncision pour les juifs. Et ce serait tout à fait étonnant que Irénée saute Abraham. C'est tout simplement que les lettres Adam ou Abraham commencent par un A. Et les traducteurs latins, du grec au latin, ont mis Adam au lieu de Abraham. Du coup, il y a eu une sorte de tradition latine où, dans laquelle les quatre alliances, c'était Adam, Noé, et puis après Moïse, et on sautait à ce moment-là Abraham, ce qui quand même aurait été énorme. Et vous voyez, donc on est absolument aux antipodes de l'islam qui affirme qu'il y a eu une alliance avec Adam. Non, il n'y a pas eu d'alliance avec Adam, il y a eu une création seulement. L'alliance ne vient que après la chute d'Adam et Ève, alors il y a une promesse d'alliance. Et c'est le chapitre 3 de la Genèse qui annonce cette promesse, mais elle n'advient, elle ne commence à devenir avec Noé, et surtout elle arrive avec Abraham.
Je reviens aux écrits d'Irénée de Lyon. Donc, nous avons parlé de son traité contre les hérésies, qui joue un rôle fondamental, je pense, dans l'établissement de l'orthodoxie chrétienne, et même sans doute dans les interprétations du Nouveau Testament, mais il y a une autre œuvre importante, démonstration de la prédication apostolique. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de catéchisme, en quelque sorte?
Oui, en quelque sorte, c'est le premier catéchisme dans lequel il explicite ce qu'il appelle la règle de la foi. C'est un mot important pour nous, la règle de la foi. Il va forger, en quelque sorte, un premier credo à trois temps. Voici donc l'ordonnance de notre foi, le fondement de notre édifice et l'appui de notre conduite. Primo, un Dieu Père incréé qui peut être contenu, invisible, Dieu unique, auteur de toutes choses, tel est le premier article de notre foi. Deuxième article, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est apparu aux prophètes selon le trait distinctif de leur prophétie et la nature particulière des économies du Père, par l'entremise de qui toutes choses ont été faites et qui, dans les derniers temps, pour récapituler toutes choses, on retrouve Éphésiens 1, 10, s'est fait homme parmi les hommes, visible et palpable, afin de détruire la mort, de faire apparaître la vie et d'opérer une communion de Dieu et de l'homme. Troisième article, le Saint-Esprit, par lequel les prophètes ont prophétisé, les pères ont appris les choses de Dieu et les justes ont été guidés dans le chemin de la justice et qui, dans les derniers temps, a été répandu d'une manière nouvelle sur l'humanité, il évoque la Pentecôte, renouvelant l'homme sur toute la terre en vue de Dieu. Donc vous avez un petit credo qui apparaît là-bas et on comprend très bien que tous les pères de l'Église, petit à petit, vont sentir l'urgence de dire le Verbe d'une manière abrégée. Et il y aura le fameux credo des apôtres, le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople que nous continuons à réciter. Mais vous avez les prémices, si vous voulez, dans des textes comme cela. Cette démonstration apostolique, c'est la première foi expresse, en quelque sorte.
Il y a un personnage dont on a assez peu parlé jusqu'alors, mais qui tient une place importante tout de même chez Irénée de Lyon, c'est la Vierge Marie.
Alors la Vierge Marie est une figure incontournable parce que pour Irénée, justement dans le passage que je citais tout à l'heure, qui offre certaines difficultés, il poursuit sur la Vierge Marie après le 3:22-3. Il continue sur la Vierge Marie comme étant la nouvelle Ève et surtout le nouveau limon utile au nouvel Adam. Et on comprend très bien, par exemple, dans la démonstration apostolique, il en donne un résumé encore plus bref que dans l'Adversus Aereses, il pose la question, de même par le fait donc, d'où provenait la substance du premier homme et il dit « Comme c'était cet homme même qu'il récapitulait en lui, le Seigneur reçut donc une chair formée selon la même économie que celle d'Adam. en naissant d'une vierge par la volonté et la sagesse de Dieu, afin de montrer lui aussi une chair formée d'une manière semblable à celle d'Adam, c'est-à-dire à partir de quelque chose qui n'a pas encore été utilisé par les hommes. Au limon vierge correspond la terre vierge du sein de la Vierge Marie. Donc on comprend très bien l'importance de la virginité de la Vierge Marie pour que ce soit vraiment un nouvel Adam, à la fois dans la continuité de la succession historique de Adam jusqu'à Jésus-Christ, mais en même temps que quelque chose de nouveau apparaisse. Donc continuité et en même temps rupture, détachement par quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui apporte cette quatrième et dernière alliance. Et ajoute saint Irénée, donc une chair formée d'une manière semblable à celle d'Adam, et de se faire cet homme même dont il est écrit qu'il était à l'origine à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notons qu'il ne s'agit pas seulement pour la Vierge Marie d'un effet physique, naturel, parce qu'il insiste juste après sur l'obéissance de la Vierge Marie, l'aspect volontaire qui est si important de son âme. Et de même que par le fait d'une Vierge désobéissante, l'homme tomba et mourut, de même par le fait d'une Vierge obéissante à la parole de Dieu, l'homme fut ranimé et recouvra la vie. Et il ajoute, il fallait qu'Ève fût donc aussi en Marie, afin qu'une vierge, en se faisant avocate d'une vierge, détruisît la désobéissance d'une vierge par l'obéissance d'une vierge. C'est admirablement bien compris. Vous voyez toujours cette idée de récapitulation. On découvre dans l'oméga l'alpha. On comprend mieux dans l'oméga l'alpha des choses. Et c'est vrai qu'Ève était immaculée avant de pécher. Et la Vierge Marie est immaculée dans la succession des Èves successives. Et c'est magnifique. Ce qui fera dire à saint Irénée cette chose extraordinaire, que la Vierge Marie est même cause du salut. C'est quand même fort de dire cela. On n'oserait pas le dire, même chez certains théologiens contemporains, cause matérielle.
Oui,
Pas la cause formelle ou la cause finale ou la cause efficiente, évidemment, mais elle est cause matérielle du salut, puisqu'elle donne chair à Jésus-Christ dans son incarnation. Le Verbe s'est fait chair, ça va être pour contrer les gnoses, les mauvaises gnoses. Saint Irénée va insister énormément sur le Verbe s'est fait chair.
On va terminer avec une information qui n'est peut-être pas connue, mais qui peut paraître étonnante, c'est que saint Irénée de Lyon a été fait docteur de l'Église le 21 janvier 2022. Pourquoi lui a-t-on attribué ce titre aussi tardivement ?
Alors, ça n'est pas parce que saint Irénée n'était pas lu ou admiré ou cité, c'est tout simplement dû au fait que pendant longtemps, on a considéré que le martyr était l'attribut supérieur à tous, parce qu'une conformité au Christ. Et dans le fond, être conforme au Christ, c'est ce qu'il y a de plus grand dans le christianisme. C'est l'imitation. Imitez-moi, mon modèle à moi, c'est le Christ, dit saint Paul. 1 Corinthiens 11:1. Et on comprend très bien que ce titre de martyr étant supérieur à tous les autres, il était inutile de lui adjoindre des titres secondaires. Et le titre de docteur est bien secondaire par rapport au titre de martyr, c'est clair. Cependant, comme le titre de martyr a été remis un peu en question, comme on l'a vu, puisqu'il n'apparaît qu'au 5e siècle, il est prudent de lui donner un titre fort qui fasse l'unanimité. Et l'unanimité, c'est de dire qu'il est docteur de l'Église. C'est celui qui est le plus cité après saint Augustin dans le Concile Vatican II. Donc, ce n'est pas rien. Le catéchisme de l'Église catholique le cite aussi très souvent. Donc, je dirais qu'il y a eu un renouveau grâce à cette découverte d'un parchemin arménien en 1904 de la démonstration apostolique, démonstration de la prédication apostolique, qui a redonné un élan de recherche sur saint Irénée. Aujourd'hui, il est très souvent étudié, c'est l'occasion de doctorat. J'ai un frère, le frère Sylvain Détoc, qui a donné un très très beau doctorat où il reprend cette formule « tout est lié ». Et on sait que le pape Paul VI aimera prendre cette formule, et combien plus le pape François dans ses encycliques sociales, hein, il reprendra tout est lié. C'est une expression qui remonte à saint Irénée de Lyon. Donc c'est très émouvant de penser que le premier à avoir dit que tout est lié, c'est lui, le grand docteur de Lyon.
Tout est lié. Nous terminerons là-dessus. Merci beaucoup, frère Édouard, de nous avoir fait découvrir la vie et l'œuvre, l'enseignement d'Irénée de Lyon, père et donc docteur de l'Église, qui reste une référence importante dans la théologie chrétienne plus que jamais. Son enseignement et son œuvre méritent d'être connus. Nous nous reverrons sans doute dans quelques temps pour une émission consacrée à un autre père de l'Église. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la réalisation Christophe Aubry. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.